divers aspects de la pensée contemporaine. Aujourd'hui, l'Union rationaliste, une émission proposée par Emmanuel Huysmans-Perrin. Frédéric Bertrand, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur des universités en géographie à la Sorbonne, spécialiste de la géographie de l'environnement et des risques. Vos thèmes de recherche portent sur la prise en compte des interactions nature-société dans l'analyse et la gestion des risques côtiers. C'est pourquoi je voulais que nous analysions en cette fin du mois d'août ce qu'il en est des rivages en France, notamment, essentiellement, et comment il est possible d'éclairer en rationaliste la question des littoraux. D'abord, peut-être pouvez-vous éclairer, pour les auditeurs de France Culture, la distinction entre côte et littoral, pour mieux comprendre la question des risques côtiers, qui sont dus à plusieurs facteurs naturels, mais pas simplement naturels, à des facteurs humains, les trois types d'érosion, la question de la dérive littorale, pour expliquer la formation des plages et des marais maritimes.
Alors, la côte ou le trait de côte, en fait, désigne trait, donc c'est une ligne de contact entre la terre et la mer. Bon, c'est une ligne qui est matérialisée parfois, pas toujours, hein, par dans le paysage. Ça peut être donc le pied d'une corniche, une limite de végétation, mais c'est parfois une limite qui est pas très perceptible in situ, sur le sol. En revanche, quand on vient, par exemple, de la mer, depuis le large et qu'on se dirige vers les côtes, la côte, c'est l'impression qu'on peut avoir à partir d'un paysage. Je dirais que la côte ou le trait de côte, c'est un peu la terre vue de la mer, pour plagier un ouvrage d'un photographe bien connu, oui, et qui a notamment fait des très belles photos de côtes et de littoraux. Le littoral, par rapport à cette notion peut-être un petit peu restrictive, c'est pas une ligne de discontinuité, c'est une bande côtière, une frange côtière, dans laquelle s'interpénètrent la terre et la mer, alors parfois de façon concurrentielle, et vont s'affronter. Donc ça donne par exemple des côtes à falaise, hein, c'est la marque de la traduction de cet affrontement entre la mer et la terre. Et puis également dans les côtes d'accumulation qui nous intéressent, des formes de coopération, hein, c'est-à-dire que les influences terrestres vont se mélanger de façon bénéfique et vont donner lieu à la construction de certaines formes, notamment les plages, les côtes sableuses. Alors, d'un point de vue scientifique, en quelque sorte, je dirais que le trait de côte est une facette du littoral, sans doute la facette la plus mobile. La tendance à l'actuelle, et notamment si on regarde la stratégie qui s'est mise en place depuis les années 2009-2010 autour d'un prolongement du Grenelle de la mer, une stratégie de gestion des espaces côtiers, eh bien il est question de stratégie nationale intégrée du trait de côte. Et donc c'est plutôt le terme qui tend à s'imposer. Et en fait, c'est sans doute un choix pertinent dans la mesure où il oblige fondamentalement à tenir compte de ce caractère essentiel du trait de côte, qui est sa mobilité, hein, c'est-à-dire son déplacement, son caractère éphémère. Et il souligne cette notion de trait de côte, souligne la nécessité, si vous voulez, de prendre en considération les différentes échelles de temps et d'espace dans lesquelles ce trait de côte est façonné et se déplace. Alors le phénomène qui nous intéresse, c'est aujourd'hui les côtes sableuses, cette forme d'accumulation, qui sont soumises à un processus, bien que ce soit des formes d'accumulation, à un processus d'érosion. Hein. On parle de l'érosion des plages. Mmh. Et effectivement, la France, comme beaucoup de pays qui possèdent une façade maritime, est soumise, notamment dans sa partie métropolitaine, à un phénomène d'érosion. Concrètement, c'est quoi? C'est une dégradation mécanique, qui va se traduire par une perte de matériaux. La mer va reprendre des matériaux, mais il faut bien avoir conscience que ce sont des matériaux qu'elle a préalablement déposés.
Amenés.
Hein, donc qu'elle a apporté et qu'elle a déposé et qui, finalement, elle va être en mesure de reprendre, mais aussi pour les déposer plus loin. Autrement dit, et c'est un aspect qu'il faut bien avoir à l'esprit, l'érosion de cette perte de matériaux, en fait, s'intègre dans une succession de processus qui se relaient dans le temps et dans l'espace. C'est-à-dire que des sables qui vont être prélevés sur une plage, ils vont être déposés ailleurs, vont participer à l'engraissement, comme on dit, d'une plage, et ainsi de suite, selon des patterns différentes qui peuvent être également variables. Alors, comment se fait effectivement ce relais de processus entre l'érosion et l'accumulation, même par l'intermédiaire d'un agent littoral qui s'appelle la dérive littorale. Mm-hmm. C'est-à-dire, c'est un courant qui longe la côte, qui procède en fait de l'attaque des vagues, du déferlement. Les vagues ne déferlent pas toujours perpendiculairement par rapport à la côte, souvent de façon oblique. Et la résultante de ce déferlement oblique, c'est un courant qui va se diriger longitudinalement, c'est-à-dire le long de la côte, et qui va emmener ces matériaux prélevés sur la plage au cours du déferlement et les redistribuer plus loin.
Alors, tous ces processus sont des processus géographiques, historiques, voilà. Et donc, au fond, ce sont des processus qui se répètent dans l'histoire et dans le temps. Qu'est-ce qui arrive à nos plages aujourd'hui et qu'est-ce qui fait qu'elles semblent majoritairement s'amaigrir, puisque tel est le vocabulaire, et ne plus grossir? Et quelles sont celles, et y en a-t-il en France métropolitaine, qui s'engraissent encore, et quelle est la proportion des plages qui grossissent par rapport à celles qui s'amaigrissent, et pourquoi?
D'abord, on peut évoquer les causes générales du phénomène. Général, ça ne veut pas dire qu'il soit unique, de par le monde, même si c'est effectivement une tendance dominante et qui, on va le voir, devrait se renforcer dans les décennies à venir. La cause structurelle du phénomène, en fait, c'est un épuisement du stock de sédiments qui s'est accumulé sur beaucoup de plateformes continentales lors de l'abaissement du niveau de la mer quand les hautes latitudes étaient recouvertes par des grandes calottes glaciaires, c'est-à-dire où l'eau était capitalisée sous forme de glace. Le niveau général des océans s'est abaissé jusqu'à 120 mètres, donc moins 120 mètres par rapport à l'actuel. Et au cours de cette période, une grande quantité de matériaux sableux, entre autres graveleux, des graviers, des blocs, se sont accumulés sur ces plateformes. Et ce stock est accumulé pendant la grande partie pendant la dernière grande période froide, est remontée, a accompagné la remontée du niveau de la mer à partir de 18 000 ans, depuis 18 000 ans, et en direction, remontée en direction des continents. Et il s'est déposé à partir du moment où le niveau de la mer s'est stabilisé à un niveau proche du niveau actuel, on va dire pour simplifier, autour du zéro actuel, c'est-à-dire il y a environ 5 000 ans. Bon, c'est pour un peu plus tôt sur certaines côtes et un peu plus tard sur d'autres. Et à partir du moment où le niveau de la mer s'est stabilisé, ce stock a été prélevé par la mer pour façonner des formes et puis c'est progressivement, non pas tari, mais disons, il a diminué, voilà, jusque progressivement et à mesure que l'homme s'installait lui-même sur les littoraux. Donc c'est une raison structurelle. La mer ne fournissant plus, si vous voulez, de matériaux, en tous les cas de matériaux sableux et grossiers.
Mais les barrages ne sont pour rien?
Alors, donc ça c'est des causes, si vous voulez, structurelles, naturelles, oui, absolument
d'accord,
naturelles.
D'accord.
Et cette pénurie s'est trouvée aggravée,
renforcée,
aggravée par les aménagements, par les hommes et à travers leur aménagement. Hein, c'est pas n'importe quel type d'activité qui a pu accélérer cette pénurie, avec des causes, je dirais, directes, à travers des actions directes sur le littoral, en prélevant des sables, en prélevant notamment aussi des matériaux plus grossiers pour la construction. Bon, c'est un phénomène qu'on observe depuis longtemps sur beaucoup de côtes, notamment dans le nord de la France, et puis sur les hautes latitudes où les côtes d'accumulation étaient mieux fournies en matériaux grossiers. Des interventions toujours directes, c'est-à-dire toujours sur le littoral en tant que tel, à travers des ouvrages de protection, qui paradoxalement étaient destinés à protéger certains secteurs qui représentaient des enjeux importants, mais qui, en protégeant certains secteurs, ont en fait fragilisé d'autres secteurs. Mmh, donc c'est un phénomène, alors ça pour le coup, qui est
qu'on toujours retrouve très actuel.
Très actuel et absolument généralisé, c'est-à-dire chaque fois qu'un, mais presque systématique, je dirais, dans notamment au droit d'ouvrage portuaire, qu'on a essayé de, enfin, de port, qu'on a voulu défendre par rapport à l'accent de la houle en construisant des jetées transversales et qui ont systématiquement, fait obstruction, si vous voulez, à la dérive, au courant de dérive littorale dont, que j'évoquais précédemment. Oui. Donc ça, ce sont des actions, je dirais, directes. Mm-hmm. Et puis vous avez ce que vous évoquiez,
Les barrages.
Des barrages. Donc c'est indirect dans ce sens que ça se produit pas sur le littoral en tant que tel, mais en amont. Et là, on a une également une, je dirais, un facteur de crise, hein, de crise érosive qui est essentiel, notamment dans les grands bassins versants. Ça a été très bien mis en étudié et démontré, par exemple dans le Mississippi, donc qui a fait l'objet à partir du New Deal et puis encore davantage, c'est accéléré à partir des années 50 d'aménagements hydroélectriques, notamment sur la rive droite du fleuve, hein, donc à l'ouest, et qui ont eu pour effet de réduire de près de moitié la fourniture de sédiments à la mer. Mmh. Alors, c'est le même exemple, le même cas de figure s'est produit en France avec le Rhône, par exemple, hein, qui a aussi été aménagé à partir de la mise en place de la Compagnie nationale du Rhône. Et ça, c'est un facteur qui est devenu, qui a pris le devant de la scène dans la mesure où, à partir du fait que la mer n'était plus à même de pourvoyer les littoraux en sédiments, eh bien, quelles sont devenues les sources pourvoyeuses? Eh bien, c'est avant tout les fleuves.
Bien sûr, les alluvions des fleuves.
Les alluvions qui permettent effectivement
de remblayer.
Voilà, de réalimenter notamment les courants de dérive littorale que j'évoquais.
Oui. Alors, on attribue l'érosion des rivages au seul changement climatique la plupart du temps dans les médias. Or, cette explication ne semble pas la plus pertinente.
Alors, le changement climatique, il est un peu décliné à toutes les sauces, pardonnez l'expression. Comme je viens de vous le montrer, la cause structurelle, c'est pas le changement climatique.
Ça,
on peut répondre de façon absolument claire et sans aucune ambiguïté. Il faut garder à l'esprit quand même que ce changement climatique dont on a compris la résonance, les multiples résonances à partir des années 1990-2000, a permis de porter l'accent sur l'érosion côtière. Donc, si vous voulez, je dirais que le changement climatique, de ce point de vue-là, a eu un série de révélateurs, un petit peu de l'ampleur du phénomène. Alors, on a vite assimilé effectivement le phénomène confondu cause et effet, si vous voulez.
Oui.
Donc c'est quand même, il a eu une importance, il a déclenché une prise de conscience, notamment dans la communauté scientifique, et puis après dans les populations du problème. De fait, le changement climatique maintenant participe au phénomène. Il participe de deux façons différentes. Première façon, c'est à travers l'élévation du niveau de la mer. L'élévation du niveau de la mer, dont on se rend compte de publications de rapports du GIEC, donc du groupement sur l'évolution du climat, il avait à avoir une valeur de plus en plus élevée. Donc maintenant, raisonnablement, toute la communauté scientifique qui travaille sur ces problèmes d'érosion côtière admet prend le chiffre de 1 mètre à l'horizon, 1 mètre d'élévation par rapport à l'actuel, à l'horizon 2010, comme une hypothèse forte. Cette élévation du niveau de la mer a pour conséquence, d'amplifier l'érosion côtière en élevant le niveau de déferlement des vagues, en facilitant les phénomènes d'affouillement au pied des ouvrages de protection. Bien évidemment, le prolongement du phénomène d'érosion dont on n'a pas eu le temps de parler encore, qui est celui de submersion, c'est-à-dire que la submersion marine, à partir du moment, bien sûr, où le niveau s'élève, je dirais qu'il y a une forte probabilité pour que la submersion, la propagation donc, de la mer vers l'intérieur des terres augmente.
Alors, ce qui veut dire, nous avons plus qu'une minute pour aborder cette question centrale qui est la question des risques, c'est que peut-être que l'horizon à penser, c'est que les hommes changent leur rapport au risque et peut-être qu'ils aménagent leur rapport aux plages d'une façon tout à fait différente.
Non, si vous voulez, pendant assez longtemps, les deux approches du risque s'opposaient, hein, sur, mm-hmm. sur ces questions d'érosion des plages, de risque d'érosion et de recul du trait de côte. Une option qui était centrée, je dirais une approche qui était centrée sur la mesure du danger, hein, donc liée en l'occurrence aux tempêtes, et avec l'idée sous-jacente qu'on pouvait contenir le danger. Et puis une autre approche qui a pris beaucoup d'importance, qui est une approche plutôt par la vulnérabilité, c'est-à-dire par le potentiel, une mesure du potentiel d'endommagement des infrastructures, des territoires, en fonction de leur exposition au danger, donc aux tempêtes par exemple, enfin en l'occurrence, en fonction de la résistance, capacité des populations à résister à travers, notamment par exemple, élever le niveau des bâtiments de façon à se protéger, ou à l'heure actuelle, la tendance c'est surtout d'insister sur les enjeux. Les enjeux, c'est-à-dire de dire on ne peut pas se défendre de l'érosion sur une côte basse d'accumulation, se défendre de ce risque de la même façon si les enjeux sont importants ou s'ils ne le sont pas. Les techniques de protection dures ne sont pas à rejeter, même si elles peuvent paraître un peu caduques, dans la mesure où, à la lumière d'une analyse coût-bénéfice, on se rend compte que les bénéfices qu'on peut en attendre pour protéger des activités qui sont en arrière d'une brèche de protection sont au moins à la hauteur du coût de l'infrastructure. En revanche, sur des côtes où les enjeux sont moins importants, il y a tout lieu de penser à d'autres formes de gestion, en l'occurrence une relocalisation des activités à moindre valeur ajoutée en direction de l'arrière-pays. C'est ce que passe en France, notamment depuis les années 2012-2013, à travers des expérimentations sur la côte aquitaine. Il y en a 3 en cours et 2 sur la côte languedocienne.
Donc c'est vers plus de résilience qu'il semble que nous devions aller. Frédéric Bertrand, je vous remercie. Je remercie Pierre Monteil et Dany Journaud qui ont rendu possible cette émission. Je renvoie au site de l'Union Rationaliste où vous verrez nos différentes publications, celles des cahiers rationalistes et celles de Raison Présente. Je vous dis bonne fin de vacances à ceux qui sont encore en vacances et je vous dis au mois prochain.